RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Le Super Football Show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Jean-Louis Tour.
Daniel Riolo et Pierre Ducrot sont toujours avec nous pour la deuxième heure de l'After. Comme tous les lundis, entre 23h et minuit, on accueille nos drôles de dames avec, par ordre d'apparition, Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe.
Salut Jean-Louis, salut à tous et à toutes.
Fred Hermel en Espagne, salut Fred.
Hola chicos.
Simone Rovera pour l'Italie, salut Simone.
Ciao, bonsoir.
Et David Lorto en Allemagne, salut David.
Allô Fred, salut à tous.
Vos avis tranchés à venir, toi David, tout comme Simone, vous parlerez de clubs dont on a assez peu l'occasion de parler les lundis dans les avis tranchés. Ce sera tout à l'heure. Fred va nous
Fred va parler du Real.
Fred va nous parler d'un joueur dont on ne parle jamais au Real. Voilà. C'est ça, On dit pas le nom.
C'est parfait.
Pourquoi, il y a une devinette?
Non, c'est que tu le trouveras pas. Avant de citer tout l'effectif.
Mais s'il vous plaît, le truc, c'est, il y a un petit effet, parce que moi je bosse mes avis, et ça fait deux jours que je suis sur le coup, de me laisser terminer, tu vois, l'histoire de laisser le petit effet qui aura la fin. Tu
vois, sauf que sur Twitter, ça a été balancé, Fred. Non,
je sais pas. Bah oui, c'est bien, mais tout le monde ne regarde pas Twitter. Alors ne dis pas, Pierre.
D'accord.
Alors
on ne dit rien. Je veux dire, ne regardez pas Twitter.
Et on commence par la vie tranchée de Philippe Auclair, Jingle Auclair.
Attends. La main de Thierry Henry, c'est pas la main du diable également?
Et on peut pas commencer avec Fred pour éviter que certains aillent sur Twitter là?
On peut pas, et en même temps, c'est pas non plus un enjeu démentiellement important. Même si, Fred, ça fait une semaine qu'il y travaille.
Bip.
Alors, on commence par toi, Philippe. Donc, ça y est, c'est officiel. Alexis Sanchez file à Manchester United. Mkhitaryan file à Arsenal. C'est pas trop grave pour les deux clubs. Ça peut profiter aux deux clubs, cet échange, c'est ça?
Oui, en fait, mais je te dirais, avant de cet avis tranché, il y a quand même l'info du soir, c'est quand même que Liverpool s'est fait battre par Swansea 1-0. C'est fini. But d'Alfie Mawson, un défenseur que j'adore, et Liverpool
Mal. Tu tapes City, tu perds Swansea.
Exactement. On en reparlera un petit peu plus tard.
Mais le foot des fois pour Liverpool, c'est un peu plus que des fois.
C'est récurrent. Depuis que Klopp est arrivé, c'est comme ça. On en reparlera tout à l'heure, mais pour l'instant, pour cet échange, puisqu'il s'agit bien d'un échange entre Alexis Sanchez, qui avait donc encore 5 mois de...
Sans oseille. Échange de joueur à joueur, quoi.
Oui, absolument, ce qui est très très rare en foot.
Oui, mais parce qu'il n'y a pas la même durée de contrat restante.
Non, il restait 5 mois pour Alexis Sanchez, et 2 ans et demi pour Mkhitaryan.
Je te donne la
faillite
contre Boulevard des Capucines, quoi.
C'est un petit peu ça. Et ce qui signifie en fait que on est au niveau de l'évaluation à peu près. Il y avait une égalité, si tu veux, entre l'évaluation qui était faite d'Alexis Sanchez par Arsenal, le prix que Manchester United était prêt à mettre et la valeur marchande de Henrik Mkhitaryan.
Oui,
et
mais
je dirais que c'est une opération.
On dit pas que les deux joueurs ont la même valeur sportive.
Non, pas du tout.
C'est pour ça que je parlais de la durée de contrat restant.
Oui, c'est pour ça que je t'ai dit. Il restait 5 mois donc pour Alexis Sanchez et 2 ans et 5 mois pour Henrik Mkhitaryan.
Voilà, ça compense.
Ceci compense cela. Et d'une certaine manière, ça fait les affaires des deux clubs.
Ça veut dire que Mkhitaryan, il vaut 2 ans de Sanchez. Non, que Sanchez, il vaut 2 ans de Mkhitaryan.
Exactement.
Ouais. L'autre, faut qu'il joue pendant 2 ans.
Ça lui met une claque à l'autre, quand même.
L'autre, faut qu'il joue pendant 2 ans.
Pour
avoir des performances aussi bonnes que l'autre.
Sans qu'il joue.
Pourquoi je dis que
c'est compliqué,
c'est peut-être une affaire qui arrange tout le monde. Certainement, les deux joueurs, ils sont sans doute absolument ravis dans la mesure où Alexis, vous avez peut-être vu ces images d'Alexis, bombant le torse, et exhalant, sa respiration sur la pelouse.
T'as presque l'impression, Philippe, qu'il est soulagé, quoi.
Oui, absolument, il est soulagé. Et du côté d'Arsenal, je peux te dire qu'il y en a qui sont également soulagés de le voir partir, parce qu'on peut pas dire qu'il avait nécessairement contribué à une excellente ambiance dans le vestiaire lors des derniers mois.
Ça, la faute à Wenger à l'avoir gardé dans ces conditions-là, grosse faute de management.
On peut le dire, faut se souvenir, tu te souviens de cet épisode rocambolesque avec Lemar, puisque Lemar était censé venir. Ça a été ridiculement mené de la part d'Arsenal, ce qui explique que vu l'état dans lequel Arsenal est aujourd'hui et vu également ce qui attend Manchester United dans les mois à venir, il s'agit d'une excellente acquisition pour United. Une chose en particulier, c'est le fait qu'Alexis Sanchez, bien qu'ayant joué un match de Ligue Europa avec Arsenal, il y a ce codicille dans le règlement de l'UEFA qui fait que chaque équipe qui participe donc au tour éliminatoire de la Champions League a le droit d'ajouter un joueur qui a joué la Ligue Europa à son effectif. Donc ça veut dire qu'Alexis peut participer
sacré
à la
renfort,
campagne
hein.
européenne. Et c'est un énorme renfort, tu imagines. Ouais. C'est énorme ouais. renfort. Donc excellente opération pour eux. Du côté d'Arsenal, ce que je dirais, c'est que tu minimises une opération qui avait été très très mal menée au mois d'août. Tu minimises les conséquences. Tu fais venir ce qui pour moi reste vraiment un très très bon joueur.
Ah, moi j'adore le joueur. Après, est-ce que Arsenal avait besoin de ça dans ce secteur? Il faut pas qu'il se blesse comme il a l'habitude de se blesser. Il faut quoi
que
ce soit.
Oui, certes. Mais il a des qualités qu'il a montré au Borussia Dortmund, au Shakhtar Donetsk, qui sont des qualités très arsenaliennes, j'allais dire. Et ça satisfait donc les joueurs, ça satisfait les deux clubs. En fait, ça satisfait tout le monde. C'est un exemple très rare d'un transfert où il n'y a pas, t'as l'impression qu'il n'y a personne qui se soit fait pigeonner.
Tout le monde est content.
Tout le monde est content, absolument.
Et ils vont poursuivre avec un attaquant?
Avec Aubameyang?
Alors Aubameyang, moi j'avais reçu des infos samedi me disant ça y est, c'est dans les tuyaux, tout est bouclé, la durée du contrat, le salaire, le machin, le transfert. Il semblerait qu'il y ait quelque chose en ce moment qui grippe un petit peu. Gazidis, le directeur exécutif d'Arsenal, était à Dortmund ce matin.
Ouais.
Il semblerait qu'il y ait un petit problème. Lorto, tu pourras me confirmer de ton côté, mais que du côté du Borussia Dortmund, on aimerait beaucoup avoir Olivier Giroud faisant partie du deal, absolument du contrat, de l'arrangement.
Ce qui est, juste les infos que nous on a, nos spécialistes transferts ont gratté quelques infos là-dessus. C'est accord joueur club, Aubameyang Arsenal, ça c'est bon. Les deux clubs doivent se mettre d'accord, mais en gros tout le monde est optimiste et d'ici 2-3 jours ça va s'officialiser quoi.
Oui, et quand j'avais vu Wenger après le match contre Crystal Palace, quand on avait parlé de, bon, il avait été très clair sur Sanchez et Mkhitaryan, mais quand il avait parlé de Aubameyang, il n'avait pas dit grand chose, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me laissait penser que, disons qu'il y avait de l'espoir de ce
et
côté-là.
Et on va recréer du coup peut-être une doublette qui a bien marché à Dortmund, David.
Oui, ça a bien marché. Non. Ça a bien marché pendant un moment, et c'est vrai que dans le rythme du football actuel, qui se compte encore demi-saison, ouais, ça peut être effectivement un très très bon plan. Juste pour compléter ce que disait Philippe, il y a eu dans un premier temps, dans le début du week-end, un gap trop important sur le montant du transfert au départ. Je pense que ça a été évoqué aussi dans les différentes émissions de d'RMC, mais c'était 70 d'un côté, 50 de l'autre. La volonté de Dortmund 70, la proposition d'Arsenal lors de la rencontre de ce week-end de 50, et effectivement si Giroud entre dans le deal, ça fait une facilité supplémentaire, et on sait que à Dortmund on n'en peut plus d'Aubameyang, hein. Ça fait un moment que je vous en parle aussi, et donc on va être peut-être enclin à solder, entre guillemets, avec tous les guillemets qu'on va pouvoir mettre autour de ce mot-là, à solder un peu l'attaquant gabonais.
Alors Philippe, je reviens à ton avis tranché, donc tu nous dis ça va profiter aux deux clubs, tout le monde est content. En revanche, il y a des joueurs qui vont le payer niveau temps de jeu, j'imagine.
Du côté de Manchester United, c'est là où c'est le plus intéressant, parce que du côté de l'Arsenal, je dirais pas vraiment, parce qu'il y a des joueurs qui actuellement ont eu du temps de jeu et qui peut-être dans la hiérarchie actuelle ne l'auraient pas eu dans d'autres conditions. Si tu vois ce que je veux dire, des joueurs comme Welbeck ou Iwobi, par exemple, même si Iwobi a pas été mauvais du tout contre Palace le week-end dernier, mais du côté de Manchester United, c'est en effet très intéressant de voir comment il va utiliser Alexis Sanchez. S'il reste dans un 4-3-3, ça veut dire que bon, Martial et Rashford dégagent. Dans un 4-2-3-1, c'est compliqué parce que Lukaku va rester en place, ça ne fait absolument aucun doute. Marcus Rashford est maintenant un petit peu sur le, je dirais un petit peu à côté, mais Jesse Lingard fait une magnifique saison. Il marque des buts très importants. En plus de ça, Juan Mata, mine de rien, tu vois les stats quand il est dans l'équipe, ça rigole. Quand il n'est pas dans l'équipe, ça rigole beaucoup moins. Anthony Martial, bien sûr, reste sur une très bonne série. Hein. Il a 3 buts dans de ses 3 derniers matchs, 3 titularisations, et franchement, il a été à la hauteur. Mais moi, je sais pas. J'ai toujours l'impression que Martial, il est même quand il est là, il est un petit peu en marge, je dirais, de l'équipe mourinienne. C'est pas un joueur mourinien du tout, et je me fais du souci. Je me fais du souci pour Anthony Martial à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont payer ça par le temps de jeu.
Ouais. Sur l'échange, Pierre, Daniel, un avis sur
Non, c'est plus moi sur Martial. Je trouve qu'il avait fait beaucoup d'efforts justement pour s'adapter à la rigueur ou ce que demandait Mourinho, et que ça commençait à se ressentir chez lui. Donc effectivement, c'est un peu dommage, parce que c'est forcément un petit peu lui de temps en temps qui va payer ça.
Voilà, donc, de temps en temps. Et Rashford, c'est pratiquement tout le temps, je pense.
Ouais.
Sur ton week-end, Philippe, sur cette 24e journée, tu voulais revenir, ouais, pas mal de choses, le triplé d'Agüero avec City.
Le triplé d'Agüero, dont un but marqué avec les cheveux. Alors, je sais pas si ça compte vraiment, mais vous avez vu sur
Cheveux.
Oui, mais bon, et tu peux marquer avec tes cheveux, d'accord, ok. Mais bon, un triplé de plus pour Kun Agüero, le joueur dont on disait que Pep Guardiola ne voulait plus, mais qui est tellement précieux malgré tout. Hein. Contre une équipe de Newcastle qui s'est battue crânement, mais City une nouvelle fois eu du mal à trouver la faille contre une équipe qui défendait très bas. Mais c'est la différence entre Manchester City qui trouve la faille et Liverpool qui ne la trouve pas. Voilà, on a vu la différence qui existait encore entre les deux équipes. Il y a d'autres choses également que je voudrais signaler. Bon, il y a une chose un peu triste, même très triste, que je voudrais signaler. Décidément, les semaines se suivent et hélas se ressemblent. L'année semaine dernière, je vous parlais de Cyril Regis, le joueur de Coventry, le West Brom, qui était décédé tragiquement. Aujourd'hui, on a appris le décès d'une des personnes les plus aimées du football anglais, Jimmy Armfield, qui faisait partie de l'équipe de la Coupe du Monde de 1966, même s'il n'avait pas joué, mais c'est parti du groupe, légende de Blackpool, et puis surtout pour nous c'était la voix du football sur la BBC. Même à l'âge de 80 ans, c'était toujours lui qu'on écoutait le samedi après-midi, et il nous a quittés hier, et je peux vous dire que l'Angleterre est vraiment, elle n'est pas choquée, mais elle est très triste. Et puis sinon, bah écoute, signaler quand même la prolongation de Kevin De Bruyne. Qui en plus de ça, ils se sont arrangés pour que ça coïncide exactement avec l'annonce du transfert d'Alexis Sanchez à Manchester United. Ils peuvent pas s'en empêcher, hein. C'est une petite guéguerre des communiqués, mais bon, une très bonne nouvelle bien évidemment pour Manchester City, s'est engagé jusqu'en 2023 le bon, l'excellent, le magnifique Kevin De Bruyne. Ça c'est une très belle nouvelle pour les Citizens. Ouais. En attendant qu'il y en a d'autres, on aimerait bien qu'ils fassent la même chose à Chelsea, par exemple Thibaut Courtois et Eden Hazard, mais qui a été génial ce week-end, mais c'est un petit peu plus compliqué, semble-t-il.
Philippe Aboudé nous rejoint au 32-16, supporter de Manchester United. Salut Aboudé.
Salut Aboudé.
Lundi, il se repose.
Ouais, non, mais tout d'abord, bonne année à tous, meilleurs vœux à tous, voilà.
4.
Voilà, moi je voulais parler d'Alexis. Bon, franchement, moi je suis vraiment étonné de ce transfert. Je pensais pas du tout que ça pouvait se faire. Je pense que c'est le transfert le plus inattendu de ce mercato-là, en tout cas. Et ça révèle quand même un certain prestige de Mourinho. Bon, certes, il y a le blé, il y a tout ça, mais franchement, ça paraissait tellement bouclé avec City que je pensais pas du tout qu'on pouvait les en empêcher de signer. Quoi.
Tu penses que c'est grâce à Mourinho que les choses ont changé?
Je pense qu'il a réussi à le convaincre quand même. Il a eu une force de persuasion qui me... Il avait fait le coup il y a 2 ans quand il avait pris Pedro, il nous avait chippé Pedro au nez à la barbe comme ça. Bon, franchement, il est très bon là. Vraiment, moi, je l'applaudis. Les deux mains, vraiment.
D'accord.
Et puis, vous avez évoqué les joueurs qui pourraient être victimes de cette arrivée. Moi, je pense que quand même, Alexis et Lukaku seront ceux qui ont la certitude d'être titulaires à 90% oui, des matchs.
On est d'accord.
Et je pense qu'il va alterner quand même. Moi, je pense que Martial continuera à jouer, Lingard continuera à jouer. Il va sans doute les faire alterner, mais je pense que quand même, Mourinho a déjà son 11, en tout cas en matière offensive. Il a déjà tout en place. Et voilà, franchement, j'espère qu'on fera un truc en Ligue des Champions, quoi, parce qu'en championnat, c'est mort. Enfin, ça va être très dur. Mais en Ligue des Champions, pourquoi pas?
En championnat, quand même, on peut souligner, on a suffisamment critiqué José Mourinho dans cette émission, j'ai pas été le dernier à le faire cette saison, pour quand même que la seule raison pour laquelle Manchester United ne sera pas champion, c'est parce que devant, il y a une équipe qui marche à un train absolument invraisemblable, parce que là, il y a encore victoire difficile et compliquée à Burnley 1-0, un but d'Anthony Martial, mais tu regardes le rythme de Manchester United cette saison, c'est normalement dans une saison normale. C'est celle d'un champion, hein. Il n'y a absolument aucun problème.
Alors, merci à Boudé. À bientôt merci dans l'after sur RMC. Disons un mot, Philippe, pour finir, donc, de cette équipe qui est capable de battre les premiers et de perdre chez les derniers. Donc,
c'est incroyable.
Qu'est-ce qui s'est passé
ce soir? C'est pas nouveau. Non, ils ont buté sur une équipe de Swansea avec un très très bon Lucas Fabianski, qui est un gardien vraiment sous-estimé en première ligue et qui fait des miracles pour Swansea depuis 2 saisons, d'ailleurs, déjà. Ils ont eu un but.
Ils ont un nouveau défenseur qui n'a pas été en réussite ce soir.
Non, mais il est pas totalement responsable là-dessus. En fait, bon, c'est un problème d'organisation sur ce Virgil van Dijk.
Ah oui.
Virgil van Dijk.
Il s'est laissé sa première.
Non, 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 c'était pas sa première. Non, il avait déjà joué et marqué contre Everton en FA Cup. Mais oui, mais c'était un problème d'organisation sur un coup de pied arrêté. Ils sont à trois joueurs de Liverpool dans un espace minuscule sur une pièce de monnaie. Le ballon retombe dans les pieds de Alfie Mawson, l'excellent défenseur central. Bon,
un
voilà.
Petit clin d'œil.
Voilà, mais non, mais tu as raison de le faire. Mais on a vu. On se posait la question d'ailleurs après le match contre City. Hein. Je pense qu'on en avait parlé le lundi soir. On s'est dit, est-ce qu'on va voir le même Liverpool la prochaine fois contre une petite équipe? Et c'est le problème récurrent.
Alors tu l'avais dit, Philippe. T'avais fait référence à la saison dernière déjà où c'était
exactement.
Le même problème.
Et c'était toujours la même chose contre ces petites équipes entre guillemets. Il y a des moments où Liverpool perd son jeu, mais ça joue un petit peu moins vite, ça joue avec un peu moins d'inspiration. Tout d'un coup, le ballon. Alors là, par exemple, Firmino. Mais un poteau sortant à la dernière seconde, d'autres matchs ça aurait été un poteau rentrant, d'autres matchs Mohamed Salah aurait été un petit peu plus précis dans sa finition, comme il l'est généralement. On peut continuer comme ça longtemps. Moi on me dit oui, mais si Philippe Coutinho avait été là, oui, mais Philippe Coutinho, quand il était là, c'était exactement la même chose contre les petites équipes. C'était pas lui la clé qui permettait d'ouvrir toutes les boîtes de conserve.
Ouais.
C'est un problème récurrent chez Liverpool, et tant que Liverpool ne l'aura pas résolu, Liverpool ne pourra pas être champion d'Angleterre. Par contre, je maintiens qu'en Ligue des Champions, ça va faire très mal.
Et Liverpool fait mal quand Liverpool n'a pas forcément beaucoup le ballon, mais est capable d'aller très vite.
Exactement.
Voilà donc pour l'Angleterre, pour tout le week-end et même la soirée de ce soir avec la défaite de Liverpool.
Comment on les laisse bien parler sans les interrompre, hein.
Ouais.
Ça vous le dites pas, les gars. Hein.
Tu discutais pas mais avec Jean-Michel Aulas là plutôt.
Non.
Mais c'est pas une autre.
Il y a sûrement un truc. T'es en train de regarder un truc sur ton portable.
Non, je me réserve sur Fred.
Et quand même signaler. En passant ballon à Fred. D'ailleurs que Marcos Silva, donc le manager de Watford, courtisé pendant très longtemps par Everton, a été démis de ses fonctions, a été remplacé par l'ancien entraîneur de Malaga, Ravi Gracia.
Très bon tacticien, qui était parti en Biélorussie ou je sais plus où.
Il était parti à Rubin Kazan.
Ah oui, c'est pas la Biélorussie.
J'avais dit qu'il était parti loin.
Il était en Russie, pas Biélo. Il était en Russie tout court.
Très bon tacticien.
Allez messieurs, Fred, justement, dans un instant, t'as encore une minute pour te préparer. Avis tranché de Fred Hermel, donc
c'est
sur
écrit, tout ça, hein.
Un joueur du Real. Ah, ça va être magnifique. On va se régaler. À tout de suite dans l'after.
C'est le super football show, l'after foot, Jean-Louis Tour.
L'after du lundi continue avec Daniel Riolo, Pierre Ducrot et nos drôles de dames après l'Angleterre. En attendant l'Italie avec Simone Rovera, l'Allemagne avec David Lorto, place donc à l'Espagne. Jingle, Fred Hermel.
D'un système que tout le monde connaît qui s'appelle 3-3-3. Ça c'est quand t'as un joueur expulsé.
Oui, exactement, il en manquait un là. Alors Fred, tu veux nous parler d'un joueur du Real?
Ça me rappelle quelque chose. Pardon?
Tu veux nous parler d'un joueur du Real?
Ouais, ça fait des années que je cherchais en fait. Je cherchais le joueur parfait. J'ai pas dit le meilleur, hein. Attention, il y a des nuances, faut bien écouter. Après on va dire, Hermel a dit que le meilleur c'était... Non, le joueur parfait. Je cherchais depuis des années quelqu'un qui serait capable de jouer à 4 postes différents et qui serait toujours correct, très correct, voire bon, voire parfois excellent, à n'importe quel poste. Un joueur qui aura un comportement exemplaire dans le vestiaire, sur et en dehors du terrain, qui ne pleurnicherait jamais, qui ne se plaindrait jamais, qui n'irait pas frapper la porte de son président pour réclamer de l'argent, encore moins tous les 6 mois comme certains, si vous voyez ce que je veux dire. Un joueur en plus qui ne se blesserait jamais, c'est rare mais ça existe, oui, ce joueur il est comme ça. Un joueur qui, alors qu'il y a 2 ans avait reçu une grosse proposition d'un très bon club italien, où il aurait gagné beaucoup plus d'argent, est resté parce que son coach lui a dit « je peux rien te promettre mon ami, mais j'ai besoin de toi ». Et puis il est resté. Un joueur qui pourrait mettre des doublés tel un grand attaquant, alors que c'est pas du tout son poste. Un joueur qui finalement cette saison serait le deuxième le plus utilisé par son coach, toute compétition confondue. Un joueur qui en plus... dont le transfert aurait coûté 0 euro, même 0 pesetas. Un joueur qui, et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur lui ce soir, sera titulaire face au Paris Saint-Germain le 14 février prochain à Santiago Bernabéu. Un joueur qui pourrait bien être décisif dans ce match au sommet du football européen. Voilà, ça faisait des années que je cherchais le joueur parfait, et pourtant il était là, devant mes yeux, je le voyais pas. Oui, je vous l'annonce ce soir, le joueur parfait existe. Il est espagnol et il s'appelle Nacho Fernandez.
Ah oui.
Okay. Jusqu'à ce
tout
que
ça,
tu parles,
là, le suspense, le machin. Vous, faut pas m'interrompre, ça fait 2 jours que je bosse. La formule, le machin, tout ça pour Nacho Fromage.
Ben ouais.
Et moi, je l'avais vu et je me disais, mais c'est pas possible.
Ah non, mais j'étais là,
j'ai dit le meilleur joueur, j'ai dit le joueur.
Je retenais la baffe qui était en train de me couler des lèvres. Là,
t'as dit, Moi, j'ai vu la tête de Daniel, là, il était à bloc.
Oh merde.
Et déception. Bah non, mais pourquoi après.
Ceci dit, c'est un très bon joueur.
Alors, Fred, ce soir, je te l'annonce.
Entendu tous les arguments.
Je ne te laisserai plus jamais.
C'est moi qui choisis. Super, ça peut me faire plaisir. Mais non, mais ce mec, il va être titulaire face à Neymar. C'est lui qui sera latéral gauche du Real face au PSG. Puisque bien sûr vous le savez que
latéral droit, gauche. Ah oui, droit.
Latéral droit parce que Marcelo sera bien là, mais c'est Carvajal qui est suspendu. Donc c'est Nacho et peut-être que l'avenir de ce du Real en Ligue des Champions, donc la saison du Real, va se jouer sur la façon dont Nacho Fernandez va réussir à bloquer Neymar ce soir-là ou pas, Bernabéu.
Mais là tu nous en parles parce qu'il a mis un doublé contre la Corogne.
Non, pas pour toutes les raisons que j'ai déclinées. Regardez tout ce qu'il y a.
Oui, c'est vrai. Mais après,
c'est le deuxième joueur le plus utilisé.
Oui, mais en même temps, il est le plus utilisé alors que le Real traverse une crise. Normalement, il joue pas si Ramos est là.
Ah, si. Non, mais il joue à tous les postes. Il peut jouer latéral droit, latéral gauche.
Oui, mais si tout le monde est là,
droit,
il joue pas.
Central droit et central gauche.
Bon.
Ben moi, si ça vous intéresse pas d'avoir un joueur comme ça dans votre équipe, ben je crois que
c'est juste le terme joueur parfait. Voilà, c'est
mais parfait, pas le meilleur. Un type qui peut jouer à quatre postes, qui est toujours bon, qui cause aucun problème dans le vestiaire et qui était formé au club. Qu'est-ce que tu veux?
C'est Pierre Ducrot.
Non, c'est
Pierre Ducrot. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Non, parce que lui, il le fait au Real. Donc effectivement, c'est déjà, enfin, c'est grand. Mais le joueur parfait pour moi, c'est un joueur qui a autre chose, tu vois, qui a un talent en plus, qui a un peu de génie, c'est encore plus que ça, le joueur parfait. Après, je te dis pas que c'est un mauvais joueur. Oui, parfait pour un entraîneur. Oui, d'accord. Dans son rôle.
Oui, c'est ça. C'est le truc. Et en plus, il a une caractéristique dingue, c'est qu'il était perdu pour le football, puisqu'il est gravement, enfin, diabétique, mais de 3 fois par jour avec l'insuline, quoi.
Ouais.
Et il en est là, quoi. Enfin, moi, je suis épaté par ce joueur. Et sincèrement, bien entendu, ce qui m'a poussé, ça fait longtemps que je connais ce joueur, mais le match qu'il a fait contre la Corogne, c'est proche de la perfection. Au-delà du doublé, défensivement, il a été parfait. Et vraiment, ici, tout le monde se dit que l'avenir du Real va dépendre de ce joueur face à Neymar, parce que si Neymar fait ce qu'il veut à Bernabéu, c'est fini pour le Real, hein. Surtout, enfin, tu vois, Neymar qui t'en met deux au match aller, si t'arrives pas à le bloquer, eh ben, certains disent même que finalement c'est pas si mal que sur les deux latéraux du Real, Marcelo et Carvajal, qu'il y en ait un des deux qui soit pas là. Vu les capacités offensives du PSG, surtout pour le premier match à l'extérieur, eh ben c'est peut-être une bonne nouvelle. Donc moi j'insiste. Alors après, si vous voulez, si ça vous plaît pas, moi je vous reparle de Ronaldo, de Messi, on fait que ça. Hein. Et puis après, les mêmes mecs qui se foutent de ma gueule ce soir, ils disent tu parles que de Ronaldo et de Messi.
Moi je crois que tu nous as surtout décrit le Pierre Ducrot actuel, et c'est ça, c'est beau.
Voilà. C'est un hommage.
Je sens un peu d'ironie dans tes propos.
Mais pourquoi tu pouvais jouer à plusieurs postes?
Ouais, non mais non, on va rester. On va rester au PSG. Je l'ai jamais fait dans un club comme le Real quand même.
Bah, à l'échelle oui, après c'est à l'échelle du PSG, mais bon.
Ah oui. Mais bon. Le PSG de l'époque en plus quoi.
Oui. Mais quand même. Bon, en même temps.
En tout cas, ce qui est bien, c'est que le 14 février au soir, on va reparler. Voilà. Vous foutez
très
la gueule,
mais n'empêche, Fred, c'est vrai. Par contre, on va avoir un œil du coup un peu différent.
Ah oui, c'est clair.
Ouais, c'est vrai.
Fred, cette victoire 7-1 donc face au Déport, qu'est-ce que t'en penses? Quelle valeur on lui donne? Est-ce que le Real est de retour?
Bah, en tout cas, les joueurs ont pris du plaisir sur la pelouse. C'est ce que j'ai senti depuis la tribune du Bernabéu, et ça c'est quand même nouveau par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines.
Cette victoire sur Anodine. Mais qu'est-ce qui se serait passé pour que d'un coup ça aille mieux alors?
La grosse discussion qu'il y a eu dans le vestiaire, le pacte entre Zidane et les
non mais ça c'est le pacte, c'était même avant que ça se passe encore moins bien.
C'était il y a 15 jours.
Ouais.
Non mais ça, mais par exemple. Le pacte, pour décrire, en gros, personne ne vient. D'ailleurs aujourd'hui on a eu la preuve de ça.
Oui, genre on bouge pas au mercato quoi.
Voilà. Mais on bouge rien. Mais vous défoncez. Et montrez-moi que je peux vous faire confiance. D'ailleurs, Kepa Arrizabalaga, le super gardien de Bilbao, 23 ans, qui va devenir, qui reste aussi le troisième gardien mondial. Voilà, qui est sûrement le meilleur jeune gardien espagnol. C'était fait avec le Real. Sauf que Zidane a dit non, je préfère que personne ne vienne bousculer l'équipe du vestiaire au mois de janvier. Et aujourd'hui, Kepa n'a pas eu d'autre solution que de prolonger son contrat avec l'Atlético de Bilbao. Donc Zidane a gagné à ce niveau-là. Donc c'est vrai que contre eux.
Sur les trois devant, l'homme en face, c'est Bale.
Ah non, mais il est fabuleux.
Mais c'est pour ça, sur les trois devant, en ce moment, l'homme en forme, c'est lui.
Ah bah oui, il est très bien. Cristiano. Alors Cristiano fait pas un bon match, mais il met quand même deux buts et il fait une passe décisive, magnifique taconazo qu'on a dit en français. Talonnade. Ouais. Très bien dans le mouvement pour Modric. Cristiano Ronaldo fait la gueule par rapport à son salaire, ça on l'a déjà expliqué. Mais sur le terrain, ça va un petit peu mieux. Bale est d'une puissance physique. Le but, les deux buts qu'il marque, le but là, le but du gauche là, frappe enroulée dans la lucarne, magnifique. Et puis un très bon but de la tête aussi. Donc Bale. Après hier soir, j'ai vu un petit peu le PSG et Kurzawa. Je me dis bon, ça peut faire mal.
Oui,
aussi
non, il vaut mieux pas que tu regardes là. Il vaut mieux pas que tu regardes ça. Ça vaut mieux pas regarder.
Oui, mais...
j'étais en train de, je voulais te poser une question. Ah oui, que deux, les deux Espagnols, ils en sont où là? Isco, Asensio, on en parle moins en ce moment.
Ben parce que maintenant ils vont retourner dans la. Et voilà, maintenant les qui c'est les matchs importants. Maintenant c'est le 4-3-3 habituel. Et puis Isco, ben il va rentrer, il va être sur le banc. Voilà, c'est tout. Parce que
même
Messi de retour.
Quoi,
parce
que Zidane, il est extraordinaire. Ouais. Quoi.
Bah, il ralentit le jeu quand même. Tu sais que les deux.
Ah bah attends, t'es le premier à nous dire qu'il était fabuleux, que c'était le meilleur joueur espagnol.
C'était le meilleur joueur espagnol en début de saison. Ben non, mais c'est début de saison.
C'était le meilleur joueur espagnol toujours
en début de saison. C'était le meilleur. Non, non, en début de saison, c'était le meilleur joueur espagnol.
Il ralentit pas le jeu, Isco, c'est pas, il ralentit pas le jeu.
Attends, mais laisse-moi t'expliquer. Quand il a fait ses deux buts contre l'Espagne à cette période-là, début de saison, après la Super Coupe d'Europe contre Manchester, la Super Coupe d'Espagne contre le Barça, oui, à ce moment-là, il était le meilleur joueur espagnol. Sauf que depuis quelques semaines, il est pas bien physiquement et il tarde beaucoup à lâcher le ballon et ça porte préjudice au jeu que le Zidane aime donner au Real, ce qui est un jeu un peu plus direct. Et donc là, tu me demandes la question, Isco, bah, il sera pas titulaire face au PSG s'il y a pas de blessé. Ça sera le 4-3-3 les trois du milieu et la BBC devant. Les trois, Kroos, Modric et Casemiro, et devant la BBC.
Et Asensio,
et ça, c'est... Asensio, il est sur le banc, mais j'ai l'impression qu'en ce moment,
il a marqué en coupe.
Un peu moins. Ouais, en coupe, c'est Lucas Vázquez. Maintenant, le 12e homme là, en ce moment, c'est Lucas Vázquez.
D'accord.
Pourquoi? Parce que Lucas Vázquez, alors, c'est le joueur qui s'adapte le plus au 4-3-3.
On va avancer un peu sur le reste de l'actu espagnol, Fred. Tu nous dis Messi de nouveau à un niveau stratosphérique, parce qu'il ne l'a pas été récemment.
Bah, il a été bon, mais hier, enfin, tu sais, quand tu vas gagner.
C'est vrai que là, en ce moment, t'as l'impression qu'il retouche. Il a jamais été vraiment des étoiles. Il y a des moments où c'est.
Il est laissé délire.
Bah, hier, 85e minute, le public du Betis Séville qui s'est pris 5-0, qui applaudit Messi sur un mouvement, quoi. Bah, ils connaissent le foot, hein. Bon, et puis Séville, le Betis, c'est une équipe qui est, voilà, ils adorent leur équipe, ils aiment pas perdre, mais face à ce qu'a fait Messi hier soir, bah, ils l'ont applaudi. Voilà, donc oui, en ce moment, Messi est à un niveau stratosphérique. Un joueur ne peut pas toujours être au même niveau, ça c'est évident. Et bah, vous allez dire que j'en rajoute, mais je me demande même si finalement le départ de Neymar, bah, ça n'a pas fait du bien à beaucoup de gens, hein. dont Messi. Parce que Neymar, finalement, dès que Messi est augmenté, Neymar allait voir, moi je veux plus d'argent et tout, c'était gênant, nanana. Messi, là, il sait que personne vient l'embêter, que personne veut mettre à son niveau, que tout le monde travaille pour lui et que personne joue pour sa gueule. Et c'est vrai et que Messi, là, il est, en plus physiquement, vous voyez comment il a affûté, là. Bon, il court pas beaucoup, il a jamais couru beaucoup, mais il a pas besoin, il fait ses 2-3 accélérations par match, ça suffit. Donc, moi je pense sincèrement que... Au jour, là, maintenant, tout de suite, là, ce Barça-là, il allait gagner la Liga, là, c'est sûr. Depuis ce week-end, on sait que le Barça allait gagner la Liga parce que les deux poursuivants, Valence et l'Atlético, ont été accrochés. Et là, ils ont 11 points d'avance sur l'Atlético. Donc, en plus, le fait que vous avez des mecs qu'on n'attendait pas, comme Paulinho, qui fonctionne à chaque match, Coutinho, qui va bientôt être là, il commence à s'entraîner avec l'équipe. Bon, bah, voilà, ça va fonctionner. Et là, le Barça, pour moi, il est en ce moment en Espagne intouchable, et en Europe je pense que ça va faire des dégâts aussi, quoi.
Ok, et Griezmann qui plante donc.
Ouais, avec Diego Costa. Alors plein de gens disent en Espagne, oui, c'est pas bon que pour Griezmann, Diego Costa prend toute la lumière vers lui. Bah oui, justement, Diego Costa prend toute la lumière vers lui, mais d'un point de vue tactique, c'est parfait pour Griezmann d'avoir un numéro 9 comme de référence qui se bat avec les défenseurs centraux comme Diego Costa. Donc Griezmann, il plante des buts. Il y a une petite histoire cette semaine par rapport à l'accord avec le Barça, ce qui est faux que Griezmann ait signé un accord secret avec le Barça. Bien sûr qu'il y a des discussions, mais c'est loin d'être fait. Donc ça c'est réglé. Donc Griezmann, il va finir tranquillement sa petite saison avec l'Atlético, et puis après il verra où il va aller. Mais il n'est pas encore au Barça, je peux vous l'assurer.
Très bien. Bon bah voilà pour l'Espagne. Dans un instant.
Il y a une petite information importante, rigolote.
Oui, vas-y.
Ah, oui.
Super rapide. 9 joueurs saoudiens qui ont été prêtés en première division, en deuxième division, en troisième division. Dans des clubs comme Villarreal, Levante, Leganés.
Ça change l'échange commercial, ça.
Bah complètement. Mais
change marchand.
Voilà, après ils. les Saoudiens qui envoient leurs jeunes joueurs dans de la meilleures écoles, donc des écoles de foot en Espagne, c'est pas mal, quoi. Et puis vous savez,
mais ils sont sélectionnés comment, c'est les meilleurs Saoudiens là-bas au pays, dans le championnat pro.
C'est les Saoudiens qui, on sait pas, mais ils ont payé, pour les joueurs, voilà.
Savoir si les Saoudiens ils sont bons ou pas, ceux qui sont arrivés là.
Est-ce que c'est les meilleurs là-bas dans
spécialiste? Il y a notamment de très bons jeunes qui sont en deuxième division. Voilà, et l'idée c'est de les faire progresser, mais en plus pour la Liga, ça offre une visibilité intéressante dans des pays où on aime beaucoup la Liga, dans tout le golfe persique. Et voilà, et en plus il y a historiquement des liens tellement proches, culturellement, historiquement, diplomatiquement, entre le monde arabe et l'Oseille.
On n'est pas dupes. On sait que on sait bien.
Italie, ils ont bien fait jouer le fils de Kadhafi.
On n'est pas dupes. On sait bien qu'il y a un intérêt derrière commercial, mais en même temps, si derrière cet intérêt commercial, tu peux. Ouais, j'avais commencé avant. Je vais finir. On n'est pas dupes. On sait très bien qu'il y a un intérêt financier derrière, un intérêt commercial, mais en même temps, c'est des pays où il peut aussi y avoir des bons joueurs. Pourquoi ne pas en profiter?
Mais ils vont progresser en s'entraînant aux côtés de très bons joueurs comme l'Espagnol, et même dans les petits clubs, vous savez, les centres de formation sont tellement bons que ils vont progresser. Après, ça rapporte de l'argent à la Liga. On va pas être dupes. Mmh. Mais je parle de ça parce qu'il y en a neuf qui ont été dupes hier.
Principalement. Voilà, donc on pourrait le meilleur joueur saoudien de l'histoire reste Al Jaber.
Ah oui.
Non mais Daniel, moi je crois beaucoup. Il y a pas de zone blanche dans le monde où il peut pas y avoir de bons footballeurs. Tu vois. Donc à un moment donné, pourquoi pas
appris depuis qu'ils sont petits.
Et c'est pour ça que je demandais la sélection qui avait été faite à la base, parce que ça m'intéressait de savoir comment ces joueurs-là avaient été sélectionnés. Si c'était juste au hasard.
C'est de faire progresser. Et puis j'insiste, c'est pas l'Espagne a été colonisée par les Arabes pendant 7 siècles. Il y a des liens très proches. Ouais. La langue espagnole est plein de mots arabes. La rota, ça vient de l'arabe. Donc voilà, il y a un lien qui est pas incroyable.
Et enfin là, ce que tu dis, c'est un peu délirant, Fred. Ça n'a aucun rapport.
Non, merci. Non,
je veux bien.
Parce que tu savais que
sans nous, mets la culture à toutes les sauces si t'as envie.
Si tu savais qu'il y a des relations diplomatiques extrêmement étroite entre la famille royale saoudienne et la famille royale espagnole. Ah. Oui, c'est du business, mais du business qui est logique. Mais je t'ai dit que c'était pour qu'en plus la Liga le dit pas, mais que la Liga prend des thunes et que les clubs prennent des thunes. C'est comme si par exemple, moi j'envoie un.
Mais il y a pas de mal à faire du business, Fred. Cherche pas des trucs.
Mais c'est pas sale.
C'est vraiment pas sale l'argent.
Moi je voulais citer Al Deaïa, qui était le gardien de but de l'Arabie Saoudite.
Al Jaber.
Je voulais citer un joueur qui a marqué l'un des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde, qui est Saïd Al-Owairan. Le but contre la Belgique en 94.
Ah, c'était pas Al Jaber?
Non, c'était Al-Owairan.
Comme j'en connais pas, comme je connais qu'un, je remettais à toutes les sautes. Après, évidemment, le but, je m'en souviens très bien, contre la Belgique, qui fait un énorme slalom et tout.
C'est un but à la Jean-Joué, d'un bout du terrain à l'autre. Super but.
On arrête là. Je pensais pas que cette info Arabie Saoudite allait affoler à ce point l'after, mais bon, c'est comme ça. Parfois, l'after est imprévisible. Dans un instant, l'Allemagne et l'Italie dans les avis tranchés des drôles de dames. La Lazio au programme, c'est l'avis tranché de Simone Rovera. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Jean-Louis Tour.
On est dans la dernière partie de l'after du lundi avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot. Ils sont là pendant 2 heures, de 22h à minuit. Et à partir de 23h, les drôles de dames nous donnent leur avis tranché qui ont marqué donc l'actualité, le week-end anglais, espagnol. C'est fait avant l'allemand, place à l'italien, jingle, Simone Rovera.
S'il y avait encore Leonardo, hier soir, il savait déjà qu'est-ce qui est sorti dans la Gazzetta. Il appelait l'agent et te dit, vous les joueurs, les agents, tout le monde ferme sa gueule jusqu'à la fin de la saison.
Je pense qu'on peut en trouver un meilleur maintenant.
Je pense que celui-là, c'est bon. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien.
C'est passé du temps, là.
Oui. Alors,
entre-temps, Leonardo était entraîneur en Turquie. Entre-temps, il s'est fait virer.
Il a un peu moins dit.
Et il fait quoi là maintenant? Il retourne à la télé en Italie?
J'ai vu dans les. Non, il n'est pas retourné. J'ai vu la dernière fois, il faisait du surf.
Mais il est très occupé, il a raison.
Alors Simone, tu veux nous parler de la Lazio, qui est troisième,
qui est troisième, et
fait du surf
et qui est mis.
Il a raison.
Elle
est jaloux, c'est tout. Il fait du surf, il kiffe.
Ah non, il est en Turquie.
Bah oui. Il était. Il a démissionné.
Non. Il vient de démissionner alors.
Il y a un mois, il a démissionné.
Allons-y sur la Lazio, s'il vous plaît, on s'en fout.
Alors, je vous parlais de la Lazio parce que déjà, elle mérite. C'est troisième, ça, c'est une équipe qui mérite cette place, surtout mérite cette troisième place. Et je la vois entre dans ces duels entre Inter, Lazio et Roma pour les deux places qui restent derrière Juve et Napoli. Ce soir, la Juve a gagné, donc il y a une lutte pour les titres toujours plus proche entre Juve et Napoli. Je vois vraiment la Lazio être aujourd'hui entre ces trois équipes, Inter, Lazio et Roma, la seule qui est sûr de participer à la Ligue des Champions. Parce qu'elle est meilleure. Parce qu'elle est meilleure à niveau d'effectif. Parce qu'elle est meilleure aujourd'hui.
C'est quoi l'ossature? Si tu dois nous faire un peu l'équipe comme ça.
Elle joue avec une défense à trois. Radu, Wallace, Devray. Il joue avec un milieu de terrain où il y a les joueurs, à mon avis, qui est plus fort que Milinkovic-Savic.
Comment tu dis Devray.
Qui va prolonger. Ouais. L'accord est fait. Mais avec un clause très petit du départ, 25 millions. Aujourd'hui, pour le mercato,
c'est
un bon joueur. Il était suivi par Barcelone, par la Juve, par l'Inter.
La clause, 25 millions.
Après, qui d'autre? Donc, Parolo au milieu?
Parolo et Milinkovic-Savic, qui sont les deux relayeurs. Sur les côtés gauche, il y a Marušić, qui est un joueur serbe qui est arrivé cet été, qui est très très bon, qui est offensivement très bon. Luis Alberto, comme joueur numéro 10, et Immobile devant. Donc, c'est un peu
Luis Alberto.
Luis Alberto, c'était une énorme surprise, arrivé l'été dernier de Deportivo La Corogne. Il a presque pas joué.
C'est l'organisateur.
La comment s'appelait le mec à la Lazio il y a deux ans, là, qui
Felipe
est brésilien.
Anderson.
Voilà.
Premier remplaçant. Aujourd'hui, un joueur comme Felipe Anderson, la force de la Lazio, c'est aussi d'avoir.
Il est toujours à la Lazio, Felipe Anderson.
Il est toujours
Anderson.
À la Lazio.
Il a complètement perdu.
Il a perdu sa place titulaire parce que dans le système de Simone Inzaghi.
Bon,
oui, mais parce que dans le système de Simone Inzaghi, si à l'époque, la Lazio a joué, même au début de la saison dernière, beaucoup plus offensif avec un 4-2-3-1 ou avant, jouait un 4-3-3, Simone Inzaghi a vraiment changé les choses avec une défense à 3, une chose qui donne beaucoup de stabilité. On sait très bien qu'en Italie, ça marche bien pour les entraîneurs qui savent l'utiliser. Et il joue avec des latéraux qui sont plus défensifs mais savent attaquer. Donc il a renoncé un peu aux joueurs de couloir offensif pour trouver plus de stabilité au milieu de terrain. Et l'autre joueur déterminant dont je n'ai pas parlé, c'est Lucas Leiva, qui est arrivé pour un chiffre aujourd'hui ridicule, 5 millions cet été, après le départ de Bilia au Milan. Si on voit qu'est-ce qu'est en train de faire Bilia au Milan et qu'est-ce qu'est en train de faire Lucas Leiva à la Lazio, c'est incroyable, encore une fois, l'énorme affaire qu'a fait la Lazio, qui depuis des années a un homme dont personne n'en parle, c'est Igletare, directeur sportif, qui est celui qui allait trouver.
L'Albanais. Qui était joueur au club il y a des années.
Il était passé par Brescia, il était passé par la Lazio, comme joueur. Qui est celui qui a trouvé tous les bons pioches de la Lazio, Milinkovic-Savic, Marušić, l'idée d'aller
prendre. C'est lui le taulier du club.
Immobile. Aujourd'hui, c'est
le Tito.
Plus que le Tito, parce que c'est lui qui décide toutes les affaires de mercato. Le Tito, c'est un peu les présidents avec qui il faut négocier, mais c'est pas lui qui a les bonnes trouvailles sur le mercato. Et après, l'autre homme fort, c'est Simone Inzaghi. Simone Inzaghi qui fait une saison de confirmation, parce qu'elle avait déjà fait des très bonnes choses la saison dernière. La Lazio est arrivée à jouer à l'Europa League, où elle joue en 16e des finales face à la Steaua, qui peut faire penser que la Lazio peut continuer dans sa progression dans son parcours européen. Il ne faut pas oublier qu'elle est en demi-finale de Ligue de la Coupe d'Italie, troisième en Serie A. Ça montre un peu les stats de la situation de cette belle saison. Elle a gagné la Super Coupe face à la Juve, en voyant la Juve quand même cette saison aller gagner. Ouais. Ils ont gagné aussi à Torino un championnat de 1. Donc, beaucoup de résultats positifs. Et Simone Inzaghi, il a donné un peu de stabilité à une Lazio qui a été généralement, très bien offensivement, mais derrière, n'arrivait pas à trouver. Et la chose incroyable, c'est qu'il a trouvé un peu à encadrer cette Lazio, mais pas avec des petits résultats, des petits matchs, des victoires 1-0. Lazio, aujourd'hui, c'est la meilleure attaque de la Serie A. Il a marqué 52 buts en saison. 4 matchs cette saison avec plus de 5 buts marqués. À les milieux de terrain qui ont plus marqué en Serie A, que c'est Milinkovic-Savic, qui à mon avis c'est le prochain énorme joueur qui va sortir de la Serie A, parce que c'est aujourd'hui les meilleurs milieux de la Serie A qui rappellent beaucoup Pogba, plus fort physiquement, un peu moins techniquement, mais c'est un joueur vraiment avec le même profil de Pogba. 7 buts lui, 6 Luis Alberto, pour vous dire, c'est pas une équipe qui a besoin seulement de buts des attaquants. C'est une équipe où participent tous les joueurs au jeu.
Tu m'as donné envie de les regarder, je les ai pas vus.
Qui joue bien.
et qui a un entraîneur qui est là par hasard. J'ai
vu qu'ils ont toujours l'un des plus beaux maillots d'Europe.
Ouais.
Au niveau de l'équipement, c'est.
Il faut toujours rappeler que Simon Inzaghi, il a un peu par hasard, parce que la saison dernière, c'était Bielsa qui devait arriver. Bielsa, au final, n'est pas venu. Et Simon Inzaghi, qui avait déjà donné la corde à son président pour aller entraîner le deuxième club de l'Otito.
Joue le foot, des fois.
Oui, qui est la Salernitana, pour aller en Serie B et rester là-bas, un peu de façon temporaire. Bon, tout reste, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et aujourd'hui, c'est l'entraîneur qui est suivi, et c'est sûrement, j'ai dit sûrement, mais personne ne peut le dire, mais presque sûrement, c'est lui qui va prendre la place d'Allegri si Allegri part en fin de saison de la Juve.
Simon Inzaghi.
C'est la choix préférée de la Juve aujourd'hui. Allegri, il attend des offres de l'Angleterre. Après, il faut voir.
Des postes en Angleterre, il va en avoir 1000 l'année prochaine.
Il pourrait y en avoir quelques-uns.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme poste Arsenal? Visiblement, c'est Ancelotti. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme poste de libre?
Parmi les têtes de il y a
Everton
et Chelsea. Everton, oui.
Non, mais Chelsea. Club Allegri va pas aller à Everton.
Chelsea, quand Chelsea. Va faire ses valises. Ouais. Tu peux éventuellement imaginer que Pochettino attire un très gros club et que Tottenham, voilà.
Bah ouais, donc, Pochettino va aller où?
Il peut aller, j'ai l'impression. Hein, vu sa cote, mais par exemple.
En Italie, on parle de ça.
Au Real, Pochettino, mais ça voudrait dire quoi?
Adjoint Zidane.
Oh là 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 là. Fred, tu veux bien leur dire que c'est impossible et que Zidane est entraîneur à vie?
Ah là 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 là.
Ah, il est parti, Fred.
Bah, il est parti. Il peut pas entendre des trucs comme ça.
Non, mais... Attends, j'ai pas bu mon micro là. Zidane sera entraîneur du Real Madrid jusqu'à la saison, quoi qu'il arrive. Jusqu'à temps qu'il en ait marre. Voilà.
Non, mais la fin de la saison.
On parle l'année prochaine.
Bah, j'en sais rien, moi. Mais c'est vrai que Pochettino plaît en Espagne.
Hein?
Mais Pochettino, bien sûr qu'il plante en Espagne.
Mais ils vont pas se séparer de Zidane quand même, si c'est possible, un truc comme ça.
Le Real ne se séparera jamais de Zidane. Zidane partira avant.
Voilà.
Mais on va pas te répéter ça toutes les semaines. Après, tu me dis que je répète. Après, quand je parle d'un super défenseur, tu te fous de ma gueule.
Oh non, mais donc, il est vexé pour ton même show.
Et Philippe?
Mais comment il va faire pour s'en aller? Tu veux dire qu'on dira pas qu'il est viré?
Zidane, et attendons qu'il s'en aille, vraiment.
Mourinho, voilà, parce qu'il pose des questions toutes les semaines. De toute façon, toi, avec Daniel, c'est une semaine c'est Zidane, une semaine c'est Benzema.
Oui.
Alors, non, moi j'avais une petite question pour Philippe, si son avis sur Mourinho à Manchester, est-ce qu'il est sûr?
Vous savez qu'on était quand même sur l'Italie. De continuer. Je me permets quand même.
Là, on transversalise.
Je lance des rumeurs de mercato, mais voilà.
Bon. Je veux avoir la réponse de Philippe.
Non, mais Mourinho, il restera, il a pas
bougé, c'est sûr.
Il a pas bougé.
Oui. D'accord. Voilà, je réponds à la place de Philippe.
Ok.
C'est bon, Philippe?
Ok.
Oui, je pense que c'est bon.
C'est plus compliqué, mais on va pas perdre de temps.
Ouais, voilà, moi c'est pour ça que je voulais jouer
le mot. Un mot sur le transfert de Dzeko, vite fait.
Bah alors, selon les dernières infos de l'Italie, ça va être pratiquement fait demain.
À Chelsea.
À Chelsea. 60 millions d'euros avec Emerson Palmieri.
Donc Emerson Lake and Palmieri, mon joueur préféré.
Rien à voir avec Julien. Il y a deux joueurs qui vont partir de la Roma pour Chelsea. Emerson Palmieri, qui est un latéral gauche, italo-brésilien. L'offre de Chelsea sur laquelle il y a encore quelques détails à régler, mais les infos italiennes disent que ça va être pratiquement fait demain.
Et la Roma, ils prennent qui en échange de Dzeko?
La Roma,
il y a pas d'échange, que l'oseille.
Alors, Chelsea aurait proposé Batshuayi, c'est pas un profil qui plaît énormément à la Roma, surtout parce que ce serait qu'un prêt, et avoir un joueur en prêt pour 6 mois.
Le Palmieri, excusez-moi, contre Avenue Foch.
Il est connu, Palmieri?
Julien, il a fait rebondir à Saint-Gilles. Ça a été vite, pour Julien, quand même.
Il est à Metz, il a déjà été transféré.
Ah,
c'est possible.
Ah,
Metz, pardon, je dis à Saint-Gilles, moi. Oui,
c'est pardon. La Roma va réinvestir sur d'autres postes. Sur d'autres postes, ils cherchent un latéral.
Ils vont jouer sans avant-centre, là.
Ils vont jouer. Ils ont dépensé 42 millions cet été pour acheter Chic de la Sampdoria, qui est considéré.
Chic. Ah oui.
Qui est considéré les meilleurs jeunes du championnat italien de la saison dernière.
C'est excellent.
Et
j'ai failli, puis moi,
ils veulent pas. Et ils ont essayé tellement de fois de faire jouer Chic avec Dzeko et ça n'a pas marché, qu'ils veulent pas faire, qu'on peut dire, gaspiller la marchandise. Et donc, c'est aussi pour ça que Dzeko va partir après une saison, la dernière, 39 buts, faut pas oublier.
Ouais, cette année.
Cette année, il a marqué beaucoup moins.
Mais il était bon contre Chelsea.
Allez, qui est en train
de passer à l'Allemagne.
Il y
avait pas un Frick d'ailleurs en Allemagne.
Oui.
Thorsten Frick?
Non, c'est Frink.
L'Allemagne, Jingen Lorto.
Je rappelle que Lorto porte toujours aujourd'hui des vêtements uniquement fabriqués en RDA.
Et oui. Donc David, tu veux nous parler d'Hambourg?
Ah bah oui, le deuxième club le plus célèbre d'Allemagne après le Bayern. Écoutez, les tremblements de terre ne se prédisent pas, sont imprévisibles, on le sait. Et ben pourtant, je vais vous en annoncer un ce soir. Le Hambourg Sportverein qui est depuis 4 saisons aux portes de la relégation. On en a parlé, ça a été rocambolesque. Notamment sur 3 des 4 dernières saisons avec des sauvetages in extremis à la dernière seconde. A perdu ce week-end le match au sommet du championnat entre le 17e et le 18e. Donc entre le dernier et l'avant-dernier, Cologne et Hambourg, qui sont deux des clubs les plus célèbres du pays, évidemment. Et Hambourg était à domicile, a perdu 2-0, a viré son entraîneur Gisdol, l'a remplacé par un entraîneur que vous ne connaissez certainement pas, qui s'appelle Bernd Hollerbach, qui était l'adjoint de Magath à Schalke, notamment, à Wolfsburg. Et seul Félix Magath précisément croit actuellement en Allemagne que Hollerbach peut sauver le Hambourg Sportverein. C'est un entraîneur très dur, très physique, à l'image de Magath lui-même. Le Hambourg est en pleine déconfiture. Alors je voulais l'annoncer dès ce soir pour qu'on puisse dire en fin de saison. Décidément, c'était inexorable.
L'Orto l'a dit.
Le départ de Gisdol s'est fait ce week-end avec les larmes aux yeux pour celui-ci. Tout est mal fait à Hambourg, la situation est très complexe et il faudra y passer plus de temps que simplement quelques minutes. Tout le monde lève les mains en disant « c'est pas moi, c'est pas moi ». Les investisseurs ne font que des mauvais recrutements. L'entraîneur dit « moi j'ai pas les bons joueurs ». Le directeur sportif Toth dit « moi on me donne pas suffisamment d'argent pour travailler ». Les actionnaires disent « mais c'est l'investisseur qui est responsable », etc., etc. Hambourg est catastrophique. Hambourg a fait son pire départ en Allemagne depuis 45 saisons. On en est à, je crois, 24 défaites sur les 48 matchs de Gisdol. Enfin, je vais pas vous citer beaucoup de chiffres, mais je voulais ce soir tirer la sonnette d'alarme pour le HSV, qui est, je le répète, le deuxième club le plus célèbre d'Allemagne après le Bayern.
Voilà, donc ça va être compliqué, effectivement, pour eux. Tu voulais aussi nous parler des records du Bayern ?
Bah oui, parce que figurez-vous que Thomas Müller en est arrivé à 100 buts et qu'il n'y a plus que 4 joueurs qui sont au-dessus de lui dans l'histoire du Bayern. Alors, vous en connaissez certains, évidemment. Gerd Müller, 365, ça c'est totalement lunaire. Karl-Heinz Rummenigge, 162. Roland Wolfhard, 119. Dieter Hönes, 102. Donc Thomas Müller, 5e meilleur buteur de l'histoire du Bayern, s'approche de Dieter Hönes et pourrait devenir le 4e rapidement. Il est en train de retrouver sa confiance, ça promet pour la Coupe du Monde. Et Lewandowski, de son côté, a marqué son 96e but avec le Bayern lors de la victoire ce week-end 4-2.
C'est lui qui, à la fin de la saison, sera plus haut au classement.
Pardon, Daniel ?
Dans les buteurs du Bayern, c'est lui alors qui pourrait être, puisqu'il en est déjà à 96 et l'autre à 100.
Non, mais 96 buts, c'est Lewandowski n'est pas au Bayern depuis aussi longtemps que Müller. Oui, bien sûr, il peut passer devant. C'est déjà le meilleur buteur étranger de l'histoire du club, devant Robben qui doit être à 94 de mémoire. Le Bayern est en train de retrouver ses forces, est en train de monter en puissance. Un petit mot sur Manuel Neuer qui recommence doucement l'entraînement, qu'on retrouvera au mois de mars, figurez-vous. Alors c'est évidemment nécessaire d'avoir beaucoup de patience à Munich quand on est supporter de Manuel Neuer, mais voilà, le Bayern retrouve ses forces aussi, et je souhaitais rappeler ces deux records ce soir, parce qu'ils sont quand même assez clinquants. Müller, 100e but, et il a dit que évidemment ça n'était pas un objectif et que ça n'était qu'un temps intermédiaire, un temps de passage. Le Beşiktaş, qui est l'adversaire du Bayern dans quelques semaines en Ligue des Champions,
ne fera pas long feu. Oui, c'est ça que tu veux dire.
Ça pourrait arriver.
Aïe.
Très bien. Et donc pas un mot, David, sur l'interview d'Isabelle Goulard sur son quotidien avec Kevin Trapp. Ça, c'est quand même assez incroyable.
Ça, c'est le côté people. Ouais,
oui, Kevin exactement. Trapp, mais bon, c'est comme ça. On va faire abstraction.
Ouais, voilà, elle a parlé un peu des performances au sportif aussi, quand même.
C'est vrai que c'est du sport. C'est du sport. Vous avez ça sur rmcsport.fr.
Elle a donné quelques détails.
Facilement.
À sa place, on fait un peu chier, quand même.
Ah oui, à la place de Trapp.
Ah oui,
c'est moyen.
Ah bah, j'ai une idée. La semaine prochaine, je vais parler de la gonzesse de Nacho.
On sera plus réceptif, Fred.
Ouais, j'ai l'impression, ouais.
Allez, messieurs, c'est fini pour ce soir. Merci des drôles de dames. On vous retrouve très régulièrement toute la semaine. Merci Pierre. Bonne semaine
merci
à toi.
Merci Jean-Louis. Merci Daniel. Merci messieurs.
Des petits transferts en perspective, là, Pierre, cette semaine, là? Non?
Oui.
N'essaie pas de placer. Ouh.
Et je vous dirai rien. Non, mais rien qui m'intéresse. Je vais aller prendre le soleil un peu, peut-être.
Je vais prendre le soleil, oui.
Sur une île.
T'envoies un joueur sur une île?
Ah bah ouais si oui, c'est pas moi qui suis transféré hein.
Cavala
non. La Grèce n'est pas une île.
Ah, c'est grec, tu veux dire. Oui, oui. Ou en Crète, quoi. À l'Ophi Crète. Je sais pas.
Non. T'es pas loin, mais.
Bah, bonne semaine. Alors, je suis pas loin quand même. Daniel, merci. On te retrouve dans la semaine. Coupe de France tout au long de la semaine. Tous les matchs sont sur RMC. Tous les 16e de finale. Dès 18h30 dans Team Dugas. On va se régaler avec toutes ces belles histoires autour de la Coupe de France. Bonne nuit à tous.
RMC, le super football show, l'After Foot.